Les par actualités.
Jeudi 27 avril 2017, avec vous pour vos par actualités de ce jour, François Brodeur en remplacement de Clotilde Seille. En manchette aujourd'hui, la CSDM qui coupe l'accès à des classes spécialisées pour les élèves en difficulté, un milieu de vie adapté aux besoins spéciaux de personnes handicapées à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. On parle également du gouvernement du Canada qui va offrir un soutien particulier à des jeunes de Toronto. Être aidant, ça coûte combien? Et en entrevue, c'est le bénévolat qui est en vedette en cette semaine des bénévoles. D'abord, un bénévole d'exception, je serais presque tenté de l'appeler le Serial Volunteer, François Morin, qui va nous parler directement du défi Altergo. Et Fimba Tankoano, qui lui est directeur de la Fédération des centres d'action bénévole. Et tout ça, ça commence dans un instant. L'Alliance des professeurs de Montréal a publié le communiqué suivant suite à une manifestation qui s'est tenue hier. Les membres de l'Alliance des professeurs de Montréal ont manifesté hier au centre administratif de leur employeur pour dénoncer le projet de la CSDM de fermer des classes spécialisées pour les élèves avec des difficultés d'apprentissage au primaire et au secondaire afin de les intégrer dans des classes dites ordinaires. Soyons clairs. Les enseignantes et enseignants ne sont pas contre l'inclusion de tous les élèves dans les écoles de la CSDM. C'est d'ailleurs la mission de l'école publique d'accueillir tous les élèves, peu importe leurs caractéristiques, leurs capacités, leurs forces et leurs faiblesses. À notre commission scolaire, nous avons toujours su être un exemple d'inclusion. Mais attention, le vocabulaire employé par notre employeur est trompeur. Sous le couvert de changement de paradigme, le projet d'inclusion de la CSDM n'est en fait que de nouvelles intégrations d'élèves HDAA en classe ordinaire, alors qu'il y a un manque cruel de services d'adaptation scolaire pour ces élèves. C'est inacceptable qu'on en soit rendu là, de commenter Mme Catherine Renaud, présidente de l'Alliance. Après la manifestation, des enseignantes et enseignants se sont rendus à la séance du Conseil des commissaires et plusieurs d'entre eux ont participé à la période de questions du public pour convaincre les commissaires de faire marche arrière avec cette nouvelle compression budgétaire. Ils ont notamment souligné aux commissaires que les besoins pour soutenir les élèves en difficulté étaient loin d'être comblés et qu'il ne faudrait pas, dans ces conditions, intégrer davantage d'élèves en difficulté sans les services suffisants. Pour l'ensemble de nos écoles primaires et secondaires, il manque 270 postes équivalents temps plein pour soutenir nos élèves handicapés et en difficulté dans les quelques 175 écoles primaires et secondaires, car ce décompte ne se fait pas dans les centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes qui n'ont pas de service pour leurs élèves à besoins particuliers, même s'ils en ont vraiment besoin. Il y a donc actuellement des milliers d'élèves qui ne reçoivent pas tous les services dont ils auraient besoin pour vivre une intégration réussie en classe ordinaire. Sans ces services, ce sont des échecs répétés qui attendent ces élèves, sans compter l'abandon de l'objectif d'égalité des chances. Dans ces conditions, comment la CSDM peut-elle concevoir l'ajout d'autres élèves HDAA dans les classes ordinaires sans compromettre les conditions d'apprentissage de l'ensemble des élèves qui composent ces classes? De plus, il est impensable de demander aux parents de se tourner vers les cabinets privés pour obtenir les services d'enseignants orthopédagogues, d'orthophonistes, de psychoéducateurs et d'autres professionnels qui ne sont pas plus disponibles pour répondre adéquatement aux besoins des élèves, de poursuivre la présidente de l'Alliance. On rejoint immédiatement au défi sportif Altergo, un bénévole que je qualifierais presque de bénévole d'exception. On parle de François Morin ici, qui est un banquier, mais pas seulement un banquier. Bonjour, Monsieur Morin.
Bonjour, Monsieur Brada.
Bonjour. On va commencer par nommer votre banque parce que je pense qu'elle le mérite.
Merci.
C'est la Banque TD.
C'est la Banque TD, oui, effectivement.
Où vous n'êtes pas seulement banquier, donc vous avez également un autre rôle. Lequel?
Moi, je suis le parrain exécutif du comité PAI. Fait que c'est PAI pour personnes ayant des incapacités. Alors, on a un comité qui est responsable de promouvoir l'inclusion de gens qui auraient des handicaps divers au sein de notre entreprise, mais également dans les différentes communautés qu'on dessert à travers le Québec et le Canada. Alors, je suis responsable de ce comité-là et son essor et sa promotion à travers le réseau.
Alors, on parle ici d'ergonomie, on parle aussi de finalement contourner les normes ISO parfois.
Oui, effectivement. C'est parce que nous, on cherche toujours du talent. Puis dans toutes les communautés qu'on dessert, on a du talent. Alors, dans les communautés des gens qui ont des handicaps, il y a des talents. Alors, évidemment, on veut attirer ces gens-là. Mais pour attirer ces gens-là, il faut absolument adapter leur milieu de travail. Il faut offrir un milieu de travail qui est très inclusif, avec des adaptations physiques de toutes sortes. Alors, ça peut être des handicaps physiques, ça peut être des handicaps visuels, ça peut être des handicaps également qui sont pas des handicaps mentaux. Alors, on a plein de façons et de méthodes et de choses qu'on peut faire pour ces gens-là pour réellement leur créer un milieu de travail qui est sain et harmonieux et où ils peuvent vraiment démontrer tout leur talent.
Vous êtes également très, très impliqué auprès du défi Altergo. Depuis combien de temps et pour quelles raisons?
Bien, le défi Altergo, la banque supporte l'événement depuis 2008. On supporte l'événement de façon financière. Alors, on a fait un don majeur à cet organisme-là. On fait un don majeur à chaque année, mais là où on offre beaucoup, c'est au niveau du bénévolat. Le défi Altergo, c'est comme un Jeux olympiques, c'est une semaine d'athlétisme pour des jeunes qui ont des handicaps divers. Alors, à chaque année, on leur offre des bénévoles de la banque à tous les jours, parce que c'est du 24 avril au 30, et on a des gens à tous les jours. Cette année, on a battu notre record. On a 257 bénévoles de toutes nos unités d'affaires qui participent à l'événement, comme moi avec mon équipe. Je serai là vendredi sur le champ d'athlétisme avec 20 de mes planificateurs financiers. Alors, ça fait du chronométrage, accueillir les gens, les saluer, les encourager durant leurs épreuves sportives. L'année dernière, on avait 200 bénévoles. Fait que c'est vraiment, à chaque année, les employés adorent faire ça parce que c'est vraiment une dose d'unité. Puis, il n'y a rien comme la bienveillance pour nous mettre de bonne humeur.
Est-ce que je dois comprendre que dans ce cas particulier, l'employeur libère des employés pour qu'ils puissent aller faire du bénévolat?
Oui, on a 257 employés qui sont présents tous les jours cette semaine. Et puis, c'est durant toute la journée. Alors, c'est vraiment... Puis on fait ça, on est très, très... on a une politique au niveau du bénévolat. Alors, on encourage beaucoup nos employés à le faire. Même durant les heures de travail. Alors, ça fait partie de notre culture.
Quel est le retour pour les employés de leurs activités bénévoles? On le fait pour quelles raisons, finalement? Et qu'est-ce qu'on rapporte au bureau, ensuite?
Ben, moi, je vous dirais que à la base, on le fait pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que c'est vraiment une activité sur le plan communautaire, sur le plan humain qui est nécessaire. Également, si on fait la promotion d'intégrer des gens qui ont des handicaps en milieu de travail, c'est important pour que les leaders de nos différentes lignes d'affaires puissent également côtoyer ces gens-là. Alors, c'est une belle opportunité d'être avec ces athlètes-là, de comprendre un peu leur réalité. Alors, lorsqu'on reçoit des gens en entrevue, on essaie de les intégrer en milieu de travail, on est beaucoup plus sensible à leurs besoins, à leurs attentes. Alors, il y a un côté éducationnel aussi de faire cette démarche-là. Puis l'autre élément, c'est de faire rayonner également qu'on cherche toujours du talent à la Banque TD. Et puis, évidemment, lorsqu'on rencontre des jeunes qui se dépassent comme ça, un jour ou l'autre, ils pourraient se retrouver dans une de nos unités d'affaires et de contribuer à l'essor de notre entreprise. Alors, c'est un peu pour toutes ces raisons qu'on fait ça.
Je crois savoir aussi qu'à titre personnel, le défi sportif Altergo vous rejoint énormément.
Oui, moi, j'ai deux filles, Camille et Sophie, qui sont lourdement handicapées. Évidemment, je suis très, très sensible à la cause. Ma plus vieille a 20 ans, ma plus jeune a 12 ans. Alors, tout ce qui est inclusion de ces gens-là dans la communauté, c'est quelque chose qui me touche de très près. Il y a beaucoup d'organismes qui viennent en aide à des familles comme la mienne. Alors là, je suis dans un poste de leadership, fait que je me permets également de supporter ces organismes de par mes fonctions, mais puis je suis tellement enchanté que les employés au sein de la banque sont très prêts à le faire également. Alors, c'est vraiment un beau mariage entre ma réalité personnelle, ma réalité professionnelle et la vie de ces familles-là. C'est incroyable.
J'aimerais beaucoup entendre aussi le père qui me parle de comment on réagit comme père quand on voit ses enfants participer à ce genre d'événement-là.
Ben moi, mes filles sont vraiment handicapées. Alors, ils ne participent pas vraiment à ce mm-hmm. genre d'événements-là, mais je connais des parents dont les enfants participent à ces activités-là. Et puis, c'est comme n'importe quel autre parent. C'est la fierté, tu sais, d'avoir un enfant qui est handicapé, puis de le voir évoluer, se développer, s'épanouir, d'être heureux. C'est quelque chose de très, très spécial. D'être un parent puis de voir qu'il y a des gens qui s'impliquent pour supporter ces événements sportifs-là, que ce soit la permanence au niveau du défi Altergo, tu sais, des employés mm-hmm. à temps plein qui travaillent pour cet organisme-là et des bénévoles comme la Banque TD et d'autres institutions financières également qui participent à supporter ces événements-là. Comme parent, on peut pas demander mieux. Tu sais, lorsqu'on élève un enfant avec des handicaps, ça prend plus que les parents pour élever ces enfants-là. Ça prend toute une communauté. Alors, ça fait chaud au cœur, c'est sûr.
Eh bien, M. Morin, il me reste à vous remercier, peut-être aussi à rappeler à nos auditeurs que le défi sportif Altergo se poursuit jusqu'à dimanche, qu'il y a des compétitions dans 7 lieux, dont notamment au Centre Claude Robillard, où c'est un petit peu le siège social. Oui. On peut donc prendre les horaires sur Internet. Les horaires de compétition. Et toutes les compétitions sont gratuites et ouvertes au public.
Puis j'invite le public à venir assister. C'est vraiment très, très plaisant de regarder ces athlètes-là performer malgré leurs handicaps. C'est vraiment spécial. Ça fait chaud au cœur.
Merci beaucoup, M. Morin.
Merci, M. Brodeur. Bonne journée.
À Sainte-Geneviève-de-Batiscan, un milieu de vie adapté aux besoins spéciaux. C'est un texte d'Audrey Leblanc publié sur le site hebdo.com. D'ici 2 ans, une toute nouvelle résidence devrait voir le jour à Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour les personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Ce projet de près de 2 millions de dollars prévoit la construction d'un bâtiment abritant 12 logements à prix modique adaptés et supervisés. On y retrouverait 10 logements de 3 pièces et demie et 2 logements de 4 pièces et demie. La bâtisse serait située tout près de l'immeuble multiservice. L'initiative est celle de l'Association des personnes vivant avec un handicap de Deschenaux. On veut vraiment créer un milieu de vie participatif, explique Manon Germain, coordonnatrice de l'organisme. Les gens devront participer dans la mesure de leur capacité. On veut que les résidents s'entraident. Par exemple, une personne ayant une déficience intellectuelle peut aider une personne qui ne peut pas se servir de ses jambes ni de ses bras. Les résidents veilleraient eux-mêmes à la réalisation de plusieurs tâches comme la tonte du gazon et la préparation des repas dans une formule de cuisine collective. On aurait des discussions avec les CIUSSS et les ressources du milieu pour la mise en place d'activités. Le soutien et les services offerts, indique Mme Germain. Cette dernière a en tête ce projet depuis déjà plusieurs années. Les démarches ont été entreprises au printemps 2016. Le projet sera présenté à la Société d'habitation du Québec, la SHQ, en mai. Après, on s'attend à recevoir une réponse au cours des 6 à 8 mois qui suivront. On est encore au stade de projet, mais c'est en très bonne voie de se réaliser, conclut la coordonnatrice de l'Association des Chenaux. C'est la semaine des bénévoles et pour nous en parler, qui de mieux que Fimba Tankoano? Monsieur Tankoano, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais très bien et vous-même?
Ah, merveilleusement bien, merci. Dites-moi, vous êtes directeur de la Fédération des centres d'action bénévoles. Ça, pour le commun des bénévoles, c'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent. Parlez-nous de cet organisme.
Alors, la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec est un regroupement provincial qui réunit 114 centres d'action bénévoles partout à travers le Québec. Mm-hmm. Alors, les centres d'action bénévoles, CETASM, c'est les organismes d'action communautaire autonome, qui ont une mission à double volet. Donc, le premier volet, c'est de faire la promotion du bénévolat dans toutes les sphères de la vie humaine. Et donc, ils vont recruter des bénévoles, ils vont les former, ils vont les informer et ils vont les replacer dans les organismes communautaires qui travaillent avec des bénévoles.
Oui, ces centres-là sont très souvent la porte d'entrée pour les gens qui veulent faire du bénévolat et ne savent pas trop où aller, à qui s'adresser.
Tout à fait.
Oui,
allez-y.
Non, je vous en prie.
Ah, je voulais dire que ces organismes-là aussi sont des lieux qui offrent du service direct aussi à la population qui en a besoin. Donc, ils peuvent y aller pour des comptoirs alimentaires, pour des comptoirs vestimentaires, pour l'accompagnement de transport médical fait par des bénévoles, la popote roulante. C'est des organismes qui offrent une panoplie de services intéressants pour les organismes, même l'aide aux devoirs.
Et avec 114 centres, on en a presque nécessairement un pas trop loin de chez soi.
Exactement. Dans toutes les provinces, et ils couvrent les MRC, les villes, les arrondissements pour l'exemple de Montréal.
C'est qui les bénévoles en 2017? Ils ont l'air de quoi?
Alors, les bénévoles en 2017, c'est monsieur et madame tout le monde. D'abord, vous avez plus de 40% des jeunes de 15 à 30 ans qui font du bénévolat. Ça, c'est quand même très intéressant. Vous avez le tiers de 25% des personnes âgées qui font aussi du bénévolat. Donc, vous avez toutes les catégories en fait de la société, peu importe l'âge, le sexe, l'origine ethnique, la condition sociale, économique. Tout le monde fait du bénévolat au Québec. Et selon Statistique Canada, nous avons plus de 2 millions de Québécois qui s'engagent bénévolement chaque année, ce qui donne environ 270 millions d'heures de bénévolat partout à travers le Québec.
Et les formes sont multiples. On parle de trucs qui vont d'une compétition sportive régionale au soutien aux personnes handicapées, par exemple, ou aux urgences sociales.
Tout à fait. Il y a du bénévolat dans plusieurs domaines d'activité. Vous avez la culture et les loisirs, vous avez les services sociaux, vous avez l'éducation et la recherche, vous avez la santé, la religion, l'environnement, les associations de défense de droits. On peut faire du bénévolat dans tous les secteurs de la vie humaine, comme je le disais tantôt. Oui, tout à fait.
Oui, et de bien des manières aussi, parce que, voyez-vous, je recevais cette semaine des représentantes du Phare Enfants Famille qui nous expliquaient que oui, il faut des bénévoles pour travailler avec les enfants, mais il en faut aussi pour, par exemple, répondre au téléphone ou faire des tâches administratives ou même être à la maison pour faire du télétravail parfois.
Tout à fait. Il y a des bénévoles pour même faire de la communication, du graphisme, au niveau de la comptabilité, des finances, du marketing. Et on peut faire du bénévolat dans toutes ces... même il y a le pro bono aussi qui se fait au niveau des juristes qui font du bénévolat pour venir en aide à des organismes qui ont besoin de coaching, qui ont besoin d'avis juridiques. Donc oui, tout le monde, dans n'importe quel secteur, en fait, peut faire du bénévolat. Et on a aussi du bénévolat dans les hôpitaux où ça peut être des infirmières qui sont en formation ou des jeunes étudiants en formation aussi en médecine qui vont faire du bénévolat dans des organisations qui travaillent dans le domaine de la santé. Des jeunes qui sont en psychologie aussi qui vont faire du bénévolat dans les organismes qui offrent un soutien aux personnes. Je pense par exemple à les organismes qui sont dans la prévention du suicide, les organismes qui sont dans l'écoute et l'aide à la personne. Donc, il y a vraiment toutes les possibilités pour n'importe quelle personne de pouvoir faire du bénévolat en se basant sur ses compétences, sur ses intérêts aussi.
Et est-ce qu'on sait ce qui motive les bénévoles?
Oui, bien sûr, la motivation des bénévoles, c'est que les personnes veulent contribuer à l'édification de leur communauté. Ils veulent être partie prenante d'un mouvement. Ils veulent sentir que leur geste compte dans la société. Donc ça, c'est la plus grande des motivations qu'ils nous donnent en premier. Dans un second temps, ils veulent mettre à contribution leur expertise, leur expérience, leurs compétences au service de la communauté.
Détrompez-moi si j'erre gravement, parce que j'ai quand même une certaine expérience dans le domaine. J'ai l'impression qu'on devient bénévole, oui, parce qu'on veut changer le monde et parce qu'on s'en sent capable, mais qu'on demeure bénévole parce qu'on en retire vraiment quelque chose.
Les deux. En fait, on devient bénévole pour les raisons que vous avez citées. On demeure bénévole parce que, un, on en retire quelque chose, mais parce que aussi on voit les accomplissements qu'on fait. Et effectivement, faire du bénévolat, c'est très bon pour la santé de façon globale. Il y a des études scientifiques qui ont démontré que faire du bénévolat, c'est bon pour prévenir les maladies cardiovasculaires, c'est bon pour prévenir les maladies cognitives comme l'Alzheimer. L'indice de bonheur des bénévoles est légèrement plus élevé que la moyenne de la population qui n'en font pas du bénévolat. Donc, faire du bénévolat, ça a des bienfaits pour la santé de la personne elle-même, en plus de pouvoir sentir qu'on contribue à quelque chose de beaucoup plus grand que soi-même.
Mm-hmm. Et si demain, quelqu'un ici veut devenir bénévole, qu'est-ce que vous lui recommandez comme démarche?
Et la première des choses, c'est de contacter le centre d'action bénévole le plus proche de chez lui. Pour ce faire, il peut juste consulter le site Internet de la Fédération. Sur l'onglet Centre d'action bénévole, il va pouvoir voir les centres d'action bénévole qui sont proches de chez lui, les contacter, aller les rencontrer, échanger avec eux. Ils vont se faire un plaisir de l'orienter vers des organismes ou des activités bénévoles qui peuvent convenir non seulement à ses intérêts, mais aussi à ses disponibilités.
Et il y a toujours des gens qui ont peut-être peur justement de décrocher le téléphone la première fois en se disant « je ne veux pas m'engager, je ne veux pas décevoir ». Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là?
Bien, premièrement, l'action bénévole, c'est un geste libre et volontaire. Donc, décrocher son téléphone et appeler ne vous engage absolument à rien. Et ne soyez pas inquiets par rapport à ça, parce que les organismes, notamment les centres d'action bénévole, savent que le bénévolat, ça correspond à un parcours de vie. Et il y a des personnes qui s'informent juste pour savoir est-ce qu'ils sont rendus au moment où il faut offrir du temps bénévole ou pas. Et la rencontre avec le centre d'action bénévole va permettre de préciser cela. Et si on n'est pas prêt maintenant de le faire, ça ne dérange pas et nous sommes toujours heureux de vous donner l'information et de rester disponible pour vous au moment où vous serez prêt pour faire du bénévolat. Donc, n'hésitez pas, appelez, prenez de l'information, ça ne vous engage absolument à rien. Et en plus de cela, il y a le bénévolat ponctuel qui permet de faire un bénévolat qui n'est pas très engageant non plus, au lieu de faire du bénévolat qu'on dit régulier. Donc, il y a quand même des possibilités là qu'on peut explorer.
Donc, il y en a pour tout, pour tous les goûts, pour toutes les compétences, pour toutes les disponibilités. Monsieur Tankoano, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une bonne fin de semaine de l'Action bénévole. Je devine que ça doit être une grosse semaine en ce qui vous concerne.
Tout à fait, et je profite de votre antenne pour réitérer toutes mes vives félicitations à tous ces millions de bénévoles qui travaillent au quotidien pour le bien-être des Québécoises et des Québécois. Et nous leur souhaitons une bonne semaine de l'action bénévole. Et n'hésitez pas à appeler un centre d'action bénévole. Renseignez-vous. Joignez le mouvement des 2,2 millions de Québécoises et de Québécois.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Un mot pour vous rappeler d'abord que le gala d'humour cette fin de semaine au Théâtre Saint-Denis est appelé Humour aveugle. Il y a encore des places, il y a encore des billets. C'est ce samedi et ce dimanche. Vous pouvez aller sur humouraveugle.ca pour acheter des billets. Il s'agit d'excellents humoristes regroupés en deux galas. On va au Canada, plus particulièrement à Toronto, où un communiqué nous apprend que construire une classe moyenne forte signifie donner aux jeunes du Canada les outils dont ils ont besoin pour trouver un bon emploi et le garder. C'est pourquoi aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il aidera plus de 330 jeunes handicapés à acquérir des compétences professionnelles essentielles et à suivre la formation nécessaire. Le député Rob Oliphant a annoncé à l'Institut national canadien pour les aveugles à Toronto que le Conseil canadien de la réadaptation et du travail recevra un montant de 4,7 millions de dollars du programme Connexion compétences du gouvernement du Canada. Ce financement aidera l'organisme à fournir à plus de 330 jeunes handicapés l'expérience de travail et la formation qui les aideront à surmonter les obstacles à l'emploi et à acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour intégrer le marché du travail ou retourner aux études. Oui, combien ça coûte d'être un aidant naturel? Eh bien, en France, on s'est posé la question, on a voulu chiffrer la chose et c'est une enquête qui nous est rapportée par le site français, le site français handicap.fr, oui. Accompagner au quotidien un proche aidant dépendant n'est pas seulement un investissement personnel, c'est aussi une charge financière pour l'aidant. Le baromètre annuel de la CARAC, Mutuelle d'épargne et de retraite, tente une première estimation. 2 049 €, soit plus de 2 900 $ par an en moyenne. Voilà ce que 2/3 des aidants interrogés pour le compte de la CARAC estiment devoir débourser pour assumer leurs responsabilités. Rétribution d'une auxiliaire de vie, frais de transport, aménagement du domicile de la personne aidée, aide domestique, frais de santé non pris en charge. Les aidants paient cher et au sens propre pour leurs proches dépendants. La charge financière compromet même les projets de 7 aidants sur 10. À titre d'exemple, les aidants ayant recours à une aide professionnelle en sont à de leur poche de 1 300 € par an, ça c'est un peu plus de 1 800 $. Ils sont aussi nombreux à ne pas faire appel à une aide professionnelle pour les épauler et dans 27 % des cas, la raison évoquée est une raison financière. L'aide a un impact sur la vie professionnelle de 3 aidants sur 4, parce que je vous rappelle qu'on n'a pas encore parlé du temps consacré par les aidants. En outre, 3/4 des sondés affirment que leur activité d'aidant, 16 heures en moyenne par semaine, a un impact important sur leur vie professionnelle, marquée par la fatigue et le stress. Une situation bien connue des premiers concernés et des acteurs qui les soutiennent. Derrière ces chiffres, on met en exergue le cercle vicieux de la précarité financière dans laquelle plonge, bien malgré eux, une partie des proches aidants. En culture, l'Espace Libre, une compagnie théâtrale de la rue Folhomme à Montréal, a lancé sa prochaine saison. Oui, c'est pas sa dernière et on lui souhaite une longue vie. Parmi les spectacles de la programmation, l'Espace Libre permet d'aborder des sujets épineux tels que l'éthique soulevée par les progrès scientifiques et le transhumanisme avec post-humain, les relations amoureuses complexes avec dans le champ amoureux, la situation des exilés et des personnes vivant avec un handicap dans Dis merci. C'est donc quelque chose qu'il faut suivre. Voilà qui conclut cette édition du 27 avril 2017 de vos Paractualités. On remercie à la recherche Christiane Campagna et Sylvie Rivard, ainsi que à la mise en onde Mathieu Tessier, François Brodeur qui était avec vous et qui vous retrouve lundi prochain. Merci et bonne journée.